France Culture.
Les nuits de France Culture.
Le déclenchement de la guerre d'Indochine, de la décolonisation de l'Indochine française, ne peut pas se comprendre sans revenir sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est le coup de force du Japon contre l'armée et l'administration coloniale française en mars 1945 qui déclenche véritablement le cycle d'événements menant à la proclamation d'indépendance du Vietnam en septembre de cette même année. Au-delà de son extrême violence, cet épisode marque un tournant dans les mentalités en faisant apparaître pour la première fois la faiblesse et la vulnérabilité des colonisateurs français. Cet épisode est la suite d'événements qu'il déclencha jusqu'au début de la guerre d'Indochine proprement dit en décembre 1946, nous sont comptés dans l'émission que voici par plusieurs de leurs acteurs et témoins. Voici l'histoire en direct, décembre 1946, le début de la guerre d'Indochine, une émission de Patrice Gélinet et Christine Bernard-Sugy, diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 juin 1993.
L'histoire en direct. Décembre 1946, le début de la guerre d'Indochine.
À l'heure où certaines revendications coloniales semblent vouloir s'affirmer, Pathé Journal croit nécessaire de présenter ce rapide inventaire de l'œuvre accomplie jusqu'à ce jour à l'abri de nos couleurs. Dans de nombreuses régions, autrefois désertiques, où des tribus hostiles les unes aux autres traînaient une existence misérable, les civilisateurs français ont apporté la paix, le travail, la prospérité, la joie. La France admet comme légitime et heureuse la diversité des civilisations qu'elle respecte. Tout Français est citoyen d'une France mondiale de 100 millions d'habitants. Par son importance et sa fécondité, le domaine français d'outre-mer est devenu un élément essentiel de la vie économique mondiale, une force active de la civilisation, un glorieux témoignage de la grandeur de la France.
Au début des années 30, à l'apogée de l'expansion coloniale de la France, le président de la République, Gaston Doumergue, inaugure au bois de Vincennes l'exposition coloniale. Tous les territoires de l'immense empire français y sont représentés par des pavillons, dont le plus impressionnant, le plus visité aussi, est la reconstitution fidèle du temple d'Angkor. Ancienne capitale d'un empire devenu un protectorat français au XIXe siècle, le Cambodge fait partie de la plus fascinante, de la plus riche et de la plus peuplée des colonies françaises, l'Indochine. 23 millions de Vietnamiens, de Cambodgiens, de Laotiens qui supportent tant bien que mal la souveraineté française. En ce début des années 30, elle paraît inébranlable. En Asie, le prestige de l'homme blanc est encore considérable. Celui des Anglais en Inde, en Birmanie, en Malaisie, celui des Hollandais en Indonésie, des Américains aux Philippines et celui de la France en Indochine. Personne n'imagine alors l'énorme choc que provoquera 10 ans plus tard l'occupation par le Japon des colonies européennes d'Extrême-Orient. Au début des années 40, lorsque commence la guerre du Pacifique, tous les peuples colonisés d'Asie voient en effet leurs colonisateurs blancs humiliés et battus par des Asiatiques, par cette armée japonaise qui profite de la défaite française en Europe pour occuper l'Indochine dès 1940. Philippe Franchini.
Les Japonais donnait quand même une impression de très grande force. C'était des petits martiens, les Japonais, quand on les voyait à Saigon. Ils étaient vraiment effarants parce qu'avec cette chaleur-là, ils ne marchaient jamais normalement. Ils n'avaient toujours pas de course. Ils traversaient Saigon, ils allaient tant de minutes au port, ça fait plusieurs kilomètres, toujours au pas de course. Toujours au pas de course, et puis avec leurs sons gutturaux. Sortaient, enfin, et puis c'était des gens étranges, on les voyait sur les plages, ils étaient à moitié nus, vous savez, avec une espèce de tissu qui leur cachait le sexe, mais ils avaient le derrière l'air, vous savez, comme les lutteurs de sumo, quoi. C'était vraiment des gens étranges, même les Vietnamiens les regardaient comme ça, et ils faisaient vraiment peur. Et puis, ils ne supportaient pas beaucoup l'alcool. Et il y avait des histoires, par exemple, au Continental. Je me souviens, moi, comme gars, j'avais assisté à une scène terrifiante, un officier japonais qui avait sorti son sabre et il s'était mis à tout trancher dans la réception. Il avait tranché une map monde. Bon, c'était quand leur colère était absolument effrayante.
Dans toutes les colonies d'Extrême-Orient qu'ils occupent au début de la guerre du Pacifique, les Japonais créent l'irréparable. Contre leurs adversaires anglais, américains et hollandais, ils encouragent l'émancipation des peuples asiatiques et éliminent l'administration coloniale. Mais en Indochine, ils maintiennent en place le colonisateur français. Le gouverneur, l'amiral Decoux, est pétainiste et la France de Vichy collabore avec l'Allemagne, alliée du Japon. Mais les bons rapports entre l'administration française et les Japonais n'empêche pas ceux-ci d'entretenir en Indochine comme ailleurs une propagande efficace qui sape le prestige du colonisateur blanc.
Prenez Hanoï. Il est constitué de deux parties bien distinctes et non mêlées, comme le monde. Le blanc et le jaune. Le blanc semble le plus important. Mais si vous mélangez les deux parties, que reste-t-il ? Du jaune, et du jaune seulement. Donc, le jaune est plus fort que le blanc.
C'était très simple, mais c'était ridicule. Mais dans la masse de la population, vous savez que les gens croyaient facilement, mais surtout en voyant les Japonais, en voyant leur puissance, on n'était pas loin, les Vietnamiens n'étaient pas loin de le croire. Et puis alors, il ne faut pas non plus oublier que quand les Japonais ont commencé à amener des prisonniers, ça m'a frappé, ça m'a fait quelque chose. Ils ont amené des prisonniers britanniques et surtout hollandais, d'Indonésie. Et ils les faisaient travailler devant tout le monde, comme ça, torse nu, en plein soleil, à faire du terrassement, vous voyez. Et alors voir les petits jaunes, gardant comme ça ces grands blancs, voir traités comme des bagnards, croyez-moi que ça faisait un effet fantastique. Le prestige du blanc, il en a pris un coup.
Après la libération de la France en 1944, les rapports franco-japonais se dégradent très vite. Le gouvernement de Vichy a disparu et Tokyo craint désormais que la France libre du général de Gaulle favorise en Indochine un débarquement anglo-américain. Les Français d'Indochine deviennent suspects. Le 9 mars 1945, au Vietnam, l'armée japonaise crée l'irréparable. En quelques heures, sous les yeux des Vietnamiens stupéfaits, toute l'administration française est éliminée. Des milliers de civils et de militaires sont exécutés ou emprisonnés par l'armée japonaise.
Et voici maintenant l'émission des provinces outre-mer. Une réalisation du service des émissions coloniales. Paul Tétau vous parle.
En Indochine, comme vous le savez, le Japon a jeté le masque. Et par surprise, dans l'ombre, il a attaqué nos garnisons. Pendant quelque temps, Tokyo et Berlin se sont associés pour clamer à tous les échos ce qu'ils osaient appeler leur victoire. Mais malgré tous ces mensonges de la première heure, la France conservait toute sa confiance dans ses combattants et résistants d'Indochine, à qui elle a confié la garde de cette terre que notre sang et que notre travail ont rendue si profondément nôtre.
Philippe Franchini, est-ce que vous avez gardé un souvenir du 9 mars 45 ?
Ah oui, ça oui, alors. Tout d'un coup, on les a vus devenir les maîtres. Pour ma part, j'étais à Dalat, parce que quand les Japonais ont fait le coup de Mars, ils ont rassemblé tous les Français dans des périmètres contrôlés. Ils avaient mis les militaires dans des camps, le camp de la mort, au Rabin, là. Les civils dans des périmètres contrôlés. Donc on s'est replié sur Saigon et on nous a évacués de Dalat dans des fourgons à bestiaux. Sur tout le trajet, Le train avançait très lentement. À chaque arrêt, il y a des Vietnamiens pour cracher dessus. Et quand on a débarqué à la gare, on était entouré par des Japonais. Et tout le long, pour aller jusqu'au centre, jusqu'à partir de ce moment-là, chacun est rentré chez soi, il y avait des Vietnamiens qui nous envoyaient des pierres et qui nous crachaient dessus. Je vous assure que c'est assez impressionnant. Et c'est ça, ce sont des souvenirs qu'on n'oublie pas. Ça, pour moi, voilà, le 9 mars, c'est ça. Vous voyez, c'est presque moins les Japonais. C'était les Japonais qui laissaient faire. Ils nous escortaient, mais ils laissaient faire. Et les Français, là, ont été sidérés. Mais comment ils peuvent avoir cette haine contre nous? Et pour les Vietnamiens, c'était la première fois qu'ils voyaient vraiment les Français humiliés.
Il y avait autrefois, devant nous, une porte si lourde et surtout si impressionnante que personne n'osait même tenter de la pousser. Personne, ou presque personne, car les audacieux s'y étaient brûlés les doigts. Un jour, un étranger est venu et l'a brutalement ouverte. Depuis lors, personne ne craint plus de l'ouvrir ni de la franchir. Un vieux sage de Mitra.
Le 9 mars 1945, en éliminant tout ce qui représente l'autorité de la France en Indochine, les Japonais ont ouvert la voie à l'indépendance. Le rêve de plusieurs organisations nationalistes qui la réclament depuis des années. Le VNQDD, le Parti National Vietnamien, mais aussi le Parti communiste indochinois, dirigé par un certain Nguyen Ai Quoc. En 1941, il prend le nom de Ho Chi Minh, crée en Chine une ligue pour l'indépendance du Vietnam, le Viet Minh, et rentre dans son pays clandestinement pour y lutter contre les Japonais. Ce n'est donc pas vers lui que se tourne le gouvernement de Tokyo après le coup de force du 9 mars 1945. Pour combler le vide politique qu'ils ont provoqué en éliminant les Français, les Japonais pensent plutôt à l'empereur d'Annam, Bao Dai. Dans son palais impérial à Hue, d'où il règne sur le Vietnam sans y gouverner, Bao Dai reçoit un jour l'ambassadeur du Japon qui vient lui proposer quelque chose que la France ne pourra plus jamais retirer. Bao Dai.
L'ambassadeur, son excellence Yokohama, qui s'est présenté à moi comme ambassadeur extraordinaire, est venu me voir en disant, voilà, au nom du Mikado, nous voulons octroyer l'indépendance à votre pays. Alors je demandais, c'était une indépendance, vous nous l'octroyez, mais qu'est-ce que vous demandez en contrepartie? Et il m'a dit rien. Alors c'est à ce moment-là que j'ai convoqué le conseil des ministres. C'était la première fois que je présidais, puisque autrefois c'était le résident supérieur qui présidait le conseil des ministres chez moi. Et j'aurais proposé, si vous voulez bien, signer avec moi cet acte d'indépendance. Et que chacun me dise son opinion. Alors tous m'ont dit, on ne sait pas ce que vaut cette indépendance, mais si vous la refusez, votre peuple vous le reprochera toujours. C'est pourquoi j'ai signé l'acte d'indépendance.
On a parlé de l'indépendance de pacotille. C'était des gouvernements fantoches, que c'était japonais évidemment, qui avaient les rênes entre les mains. D'accord. Mais c'était quand même pour moi très important. Parce que c'était vraiment une rupture avec la colonisation, avec le système colonial. La magie du mot Doklap, indépendance, est quelque chose qui a commencé vraiment là, même s'il y avait encore les Japonais. Et c'est pourquoi je pense que c'est vraiment la première mort de la machine française.
Le 6 août 1945, les Américains lancent la première bombe atomique sur Hiroshima. 10 jours plus tard, le Mikado, l'empereur du Japon Hirohito, annonce la capitulation de son pays. La guerre est finie. Dans toute l'Asie, les troupes d'occupation japonaises cessent le combat et attendent l'arrivée des Alliés. En Indochine, une course de vitesse s'engage aussitôt entre le gouvernement français du général de Gaulle, qui cherche à envoyer des troupes au Vietnam, et le Viet Minh, qui veut profiter du vide créé par la capitulation du Japon et par l'absence des Français pour s'emparer du pouvoir. C'est ce qu'il fait le 19 août 1945. Ce jour-là, les forces Viet Minh du général Giap s'emparent de Hanoï. Von Nguyen Giap.
Le moment de l'insurrection est venu. Et alors, à Hanoï, par exemple, le 19 août, n'est-ce pas, c'était l'insurrection générale, n'est-ce pas. Ici, c'est un édifice historique. Alors, il y a eu une grande manifestation, n'est-ce pas, à la place du théâtre, et puis une très grande manifestation devant ce palais. C'était où était palais. Le vice-roi, le vice-roi de Maulai, n'est-ce pas? Et alors, la foule a arboré le drapeau rouge, le sambaré, n'est-ce pas, de ce bâtiment. Et puis, le comité, n'est-ce pas, révolutionnaire de Hanoï était fondé. Alors, à ce moment, n'est-ce pas, l'insurrection générale gagnait tout le pays.
Un énorme défilé part dans Hanoï.
Philippe Grandjean.
Et après s'être formé au théâtre, c'est-à-dire à ce qui est devenu l'Assemblée nationale, et il porte des drapeaux nationalistes, c'est-à-dire à deux bandes rouges sur fond jaune, trois bandes rouges sur fond jaune. Et avec l'accord visible de la gendarmerie japonaise, de la Kanpetai, qui entourait le défilé, qui encadrait le défilé, ces drapeaux disparaissent et leur sont substitués des drapeaux Viet Minh.
C'était une levée de tout le peuple.
Phan Van Dong.
On ferait le drapeau à travers tout le pays. Une explosion de joie, et j'ajoute une explosion de vertu dans le peuple.
Après la défaite japonaise, j'ai reçu de la part des représentants de toute tendance politique
Bao Dai
un télégramme me demandant de faire un geste pour le pays. Je voyais que dans l'esprit de mes compatriotes, ils voulaient une révolution. Pour eux, s'il n'y a pas de révolution, il n'y a pas d'évolution, justement. La révolution, je ne voyais pas comment ils voulaient la faire. Alors je leur ai dit, vous voulez faire une révolution? Eh bien moi, je vais vous la faire, la révolution. C'est ainsi que je suis parti et j'ai laissé ma place. Un nouveau régime.
Trop compromis avec les Japonais, Bao Dai, qui souhaite préserver l'indépendance de son pays, abdique le 24 août 1945. Il accepte même d'entrer comme conseiller dans le gouvernement provisoire créé 4 jours plus tard par Ho Chi Minh avec Pham Van Dong et Giap. Mais le temps presse. Les Français vont bientôt revenir. Il faut les mettre au pied du mur. Le 2 septembre 1945, place Ba Dinh à Hanoï, devant des milliers de Vietnamiens, Ho Chi Minh crée l'irréversible. En proclamant à son tour l'indépendance du Vietnam, il met un terme à 80 ans de colonisation française.
Je suis l'un des rares Français à avoir assisté à la proclamation de l'indépendance. C'était le 2 septembre.
Philippe Grandjean.
Et sur la place, en face du gouvernement général, et un certain nombre de corps constitués, dont le grand séminaire de Hanoï, des bonzes, enfin, etc., étaient disposés en étoile autour de la place. Et Ho Chi Minh et son équipe étaient au milieu, un discours enflammé. Et j'ai assisté, j'étais là.
Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ.
Tous les hommes sont nés égaux. Le Créateur nous a donné des droits inviolables. Le droit de vivre, le droit d'être libre et le droit de réaliser notre bonheur. Cette parole immortelle est tirée de la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique en 1776.
Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791.
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française de 1791 proclame également « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. » Ce sont là des vérités indéniables. Et pourtant, pendant plus de 80 années, les impérialistes français, abusant de leur liberté, égalité, fraternité, ont violé la terre de nos ancêtres et ont opprimé nos compatriotes.
Monsieur Van Vendong, le 2 septembre 1945, c'est la proclamation de l'indépendance. Comment l'avez-vous vécu ce jour-là, vous-même ?
Oh là là, c'est un jour historique. Historique pour tout le monde. Nous étions là, tous. C'était pour la première fois que Ho Chi Minh, que Nguyễn Ái Quốc, prenait contact avec le peuple du Vietnam. Et sa voix a été écoutée dans tout le pays. Nous étions émus jusqu'au larmes. Parce que pour la première fois, pendant des décennies, bien, on entendait la voix dans l'île de la Révolution qui lisait la proclamation de l'indépendance, disant que le Vietnam est et restera un pays indépendant.
Một dân tộc đã gan gốc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay. Một dân tộc đã gan gốc đứng
du un peuple qui s'est obstinément opposé à la domination française pendant plus de 80 ans. Un peuple qui, durant ces dernières années, s'est décidément rangé du côté des Alliés pour lutter contre le fascisme. Ce peuple a le droit d'être libre, ce peuple a le droit d'être indépendant. Pour ces raisons, nous, membres du gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam, proclamons solennellement au monde entier, le Vietnam a le droit d'être libre et indépendant, et en fait, est devenu libre et indépendant.
La proclamation de l'indépendance du Vietnam est un véritable défi lancé à Paris au gouvernement du général de Gaulle. Deux semaines plus tôt, le 16 août, celui-ci a désigné l'amiral d'Argentlieu au commissaire en Indochine, avec des instructions bien précises. Il n'y est pas question d'indépendance. D'ailleurs, de Gaulle a confié au général Leclerc, nommé commandant en chef en Indochine, le soin d'y ramener l'armée française. Mais elle n'y débarquera qu'en octobre, là où le Viet Minh est le moins fort, en Cochinchine, dans le sud du Vietnam.
Instruction donnée par le général de Gaulle à l'amiral Thierry d'Argentlieu le 16 août 1945. Le haut commissaire de France pour l'Indochine exerce les pouvoirs de gouverneur général de l'Indochine et ceux de commandant en chef des forces terrestres, navales et aériennes basées en Indochine ou désignées pour s'y rendre. Il a pour première mission de rétablir la souveraineté française dans les territoires de l'Union indochinoise.
Indochine.
Ah ouais.
Ah yeah.
Madagascar.
Antilles.
Réunion.
Les actualités d'outre-mer.
Un port, Marseille. Un navire, la ville de Strasbourg. Des hommes, ceux de la 2e DB. Une destination, Indochine. Des villes, d'hommes, de pays, un seul drapeau, les trois couleurs, une seule devise, liberté.
La sirène retentit. Les cœurs battent. Les braves de Leclerc, accoudés au bastingage, regardent s'éloigner cette terre de France où tant de leurs camarades sont tombés au champ de 16 vers l'Indochine.
Franck Igny, est-ce que vous vous souvenez de l'arrivée du général Leclerc?
Je me souviens d'une foule énorme, mais je me souviens surtout de l'émotion extraordinaire qu'il y avait. Parce que alors là, c'était le sauveur qui arrivait. Parce que là, on avait l'impression, d'abord, il y avait des troupes qui arrivaient avec lui, mais là, on a dit, bon, c'est fini, les Français qui arrivent, tout va changer. Parce que, vous savez, là-bas, c'est un pays, encore plus qu'ailleurs, où on est capable de repartir comme en 14. Ça, c'est le pays qui veut ça. Le pays des illusions, vous savez, des mirages et tout. Et alors là, ah oui, mais Leclerc, c'était le sauveur, le sauveur. On avait l'impression que cette fois-ci, le cauchemar se terminerait, vous voyez. Mais il faut dire aussi une chose, c'est que les premiers Français qui sont arrivés ont déçu les coloniaux. Parce que forcément, ils arrivaient avec les idées gaullistes. C'est des gaullistes qui arrivaient. Ils arrivaient avec des idées gaullistes, des idées libérales.
Tout le monde était dans la rue Catina, à Saïgon.
François Romériau.
Ça a été merveilleux.
Hein? Vous aviez le sentiment que on reprenait pied en Indochine.
Ah oui, 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 oui.
Puis oui. Le soulagement aussi, peut-être.
Le soulagement, la délivrance, n'est-ce pas, hein? Mais dans le fond, je me disais, le verre est dans le fruit maintenant. Ça ne sera plus jamais comme avant.
Nous arrivions là dans une ville qui était libérée. Entendez, les civils nous adoraient.
Philippe de Villers.
Nous avions, toutes les jeunes saïgonaises cherchaient à sortir avec nous, à nous voir, etc. C'était assez étonnant. Mais il n'empêche que les propos étaient déjà, vite rétablissaient la domination française, la souveraineté française, parce que nous n'avons en face de nous finalement que des bandits, des brigands, des bagnards. C'était un terme qu'on entendait beaucoup. Et que ceci est venu renforcer un peu mes convictions. Moi, je dois avouer que je suis arrivé en Indochine à la fois impérialiste, colonialiste, raciste, réactionnaire, etc. Ça, je peux l'avouer, mais parce que ça a changé depuis. Mais je dois dire que j'étais dans l'atmosphère, disons, de 98% des Français militaires et civils que nous rencontrions, que ce soit les nouveaux arrivants ou ceux qui étaient d'Indochine. Ça, c'était absolument... Et alors, nous étions d'autant plus fortement enracinés dans cette conviction, c'est que nous venions au nom d'une France libérée, démocratique, qui faisait partie du clan des vainqueurs, si bien que nous avions une mentalité de vainqueurs. Nous mettons fin à la Deuxième Guerre mondiale et nous rétablissons la grandeur de la France jusqu'à la dernière colonie qui restait à libérer. Très très vite, les opérations ont été tellement décisives qu'on s'est dit on tient tout à fait le bon bout, et d'ici peu de semaines, ce qui était le cas, la Cochinchine nous paraissait pacifiée. Mais alors la révélation, et c'est là où les soldats ont eu le choc, c'est qu'ils avançaient naturellement en jeep ou en blindé sur les grands axes, les routes, et tout d'un coup, il y en avait qui tombaient et on ne savait pas d'où venait le coup de feu. Et ce qui a été alors assez vite perçu, c'est que c'était les paysans qui nous tiraient dessus et que ces paysans tiraient et ensuite se cachaient sous l'eau et respiraient par des bambous en mettant leurs fusils immobiles naturellement au-dessus de l'eau, si bien qu'on n'arrivait absolument plus à les trouver. Alors que le fait déchirant, si on peut dire, ça a été, ce ne sont pas des bagnards et des bandits qui peuvent faire autant de choses comme ça, nous avons les paysans contre nous.
14 février 1946, message du général Leclerc au gouvernement français. Dernier renseignement à Neuil, confirme Annamite de plus en plus près, soit céder s'ils reçoivent satisfaction mot indépendance, soit se rejeter dans guerre du type résistance française qui peut durer plusieurs années. J'estime que la conjoncture actuelle est la plus favorable pour faire une déclaration dans ce sens. Les Annamites acceptent sous le mot indépendance ce que nous proposons sous le mot autonomie. En conclusion, j'estime que c'est exactement maintenant, avant le débarquement au Tonkin, le moment opportun pour déclaration gouvernementale précise et renfermant le mot « indépendance ».
La marche que vous entendez en ce moment est l'hymne national du plus jeune État du monde. C'est l'hymne national de la République du Vietnam qui vient de se constituer au sein de l'Union française.
Jacques Salbert, notre envoyé spécial en Indochine, a enregistré à Hanoï ses rythmes et ses chœurs qui, pour la première fois, sont diffusés sur des antennes françaises.
Le 6 mars 1946, après avoir occupé la Cochinchine et au moment où ses troupes s'apprêtent à débarquer au Tonkin dans le nord du Vietnam, Leclerc, pour éviter la guerre, accepte de reconnaître le gouvernement Ho Chi Minh et la République du Vietnam. Ce jour-là, Jean Saint-Denis, représentant de la France au Tonkin, signe avec Ho Chi Minh un accord par lequel la France reconnaît la République démocratique du Vietnam comme un État libre, mais elle refuse le mot « indépendance ». En échange, Ho Chi Minh accepte le retour des Français et obtient la promesse que la France quittera le Vietnam dans 5 ans. Roland Sadoun, membre de la délégation française.
La signature, elle a été, comme toute signature, un peu formelle. Ho Chi Minh, naturellement, étant présent, Diam étant présent. Enfin, j'ai été aussi parmi ceux qui ont pu assister à cette cérémonie et, je dirais, à cette signature qui était tout à fait exceptionnelle par son caractère. Si on tenait compte de la situation et si on tient compte de la situation quelques mois avant, c'était absolument providentiel que de pouvoir obtenir un tel résultat. Je dirais donc qu'il y a eu, en tout cas du côté français, un grand soulagement, une grande satisfaction, et je pense que du côté vietnamien, et en particulier de la part d'Ho Chi Minh, il y a eu une grande satisfaction qui a été partagée en particulier par les observateurs anglais et américains qui étaient présents.
Notre président, Ho Chi Minh, était l'incarnation de la paix.
Pham Van Dong.
Il voulait la paix. Il faisait tout pour avoir la paix, surtout avec la France. Tout le monde le savait, et surtout les Français qui avaient le rôle de négocier avec nous, avec Ho Chi Minh. Eh bien, au sujet de l'accord du 6 mars, ce que je tiens à vous dire, et à le dire en toute honnêteté, c'est que c'était un dialogue le jour. Ho Chi Minh demandait que la France acceptât l'indépendance de son pays, qui resterait dans la fédération indochinoise et dans l'Union française. Eh bien, savez-vous comment il lui fut répondu? Il lui fut répondu que le mot « indépendance » n'existait pas dans le vocabulaire français.
Du côté vietnamien, je pense qu'il y avait avec Ho Chi Minh et autour de Chi Minh une grande bonne volonté réaliste. Ce n'était pas du tout par amour, c'était par un fond d'estime et de sympathie pour la France en général et certains Français en particulier. Mais il y avait un désir de coopération et manifestement, il y avait aussi probablement autour de Chi Minh et dans différents milieux une véritable hostilité.
Certains de mes amis considèrent que c'était un recul inexplicable.
Hunyop.
Il fallait tout le prestige du président Ho Chi Minh pour pouvoir faire rober cet accord du 6 mars.
Nous étions indépendants, en fait, depuis août 1945. Mais aucune puissance n'avait jusqu'ici reconnu notre indépendance. La convention avec la France ouvre la voie à la reconnaissance internationale. Et c'est là un grand succès politique. Les troupes françaises vont venir sur les ordres alliés. Elles ne resteront que 5 ans. Ainsi, nous devenons une nation libre dans le monde et nous serons évacués dans 5 ans. C'est faire preuve d'intelligence politique que de négocier plutôt que de se battre. Pourquoi? En effet, sacrifier 50 ou 100 000 hommes alors que nous pouvons parvenir par la négociation à l'indépendance, peut-être dans 5 ans. Moi, Ho Chi Minh, je vous ai toujours mené sur le chemin de la liberté. J'ai toute ma vie combattu pour l'indépendance de notre patrie. Vous savez que je préférerais mourir que de jamais vendre le pays. Je vous jure que je ne vous ai pas vendu.
Terminé ce reportage réalisé à Hanoï chez le président Ho Chi Minh. Écoutez un chant national vietnamien, Ho Chi Minh Mon An, ce qui littéralement se traduit par « Mille ans, monsieur Ho Chi Minh », la formule consacrée à la mythe pour offrir ses vœux à quelqu'un, et que l'on peut traduire en bon français par « Vive monsieur Ho Chi Minh ».
Malgré la bonne volonté de Leclerc, de Saint-Denis et de Ho Chi Minh, les accords du 6 mars deviennent vite un marché de dupes. En désaccord avec Leclerc, qui est son subordonné, Thierry d'Argentlieu est bien décidé à rétablir dans son intégralité la souveraineté de la France en Indochine. De son propre chef, en juin 1946, il divise le Vietnam en séparant la Cochinchine du reste du pays. Saigon échappe à l'autorité de Hanoï. Ho Chi Minh est furieux, et c'est dans les pires conditions qu'il se rend en France pour y négocier à Fontainebleau un accord définitif. Le 22 juin 1946, accompagné par Jean Saint-Denis, le chef du gouvernement vietnamien est accueilli au Bourget par son homologue français Georges Bidault et par le ministre de la France d'Outre-mer, Marius Moutet.
Quand on l'a fait, les couleurs françaises et vietnamiennes flottent à l'entrée et sur les bâtiments de l'aérogare du Bourget. Un imposant service d'ordre contient les Indochinois de Paris, venus en foule saluer le président de l'État libre du Vietnam. En effet, l'avion Dakota venant de Biarritz, à bord duquel le président Ho Chi Minh a pris place, vient d'atterrir sur la piste du Bourget. Actuellement, le président Ho Chi Minh passe en revue le détachement de la garde et s'arrête devant le drapeau.
À 16h, nous survolons Paris. Le terrain du Bourget est noir de monde. Monsieur Marius Moutet, ministre de la France d'Outre-mer, entouré de nombreuses personnalités civiles et militaires, représente le gouvernement français. Sur le port aérien, flottent associées les couleurs françaises et vietnamiennes. Je regarde mon hôte. Le regard fixé sur cette foule, il est livide. Ses yeux sont brillants. Sa gorge serrée ne peut laisser passer les mots qu'il cherche à me dire. Lorsque l'avion s'immobilise sur la piste, sa main se crispe sur mon bras. « Surtout, ne me quittez pas, me dit-il, il y a tant de monde. Les hymnes français et vietnamiens éclatent. Ho Chi Minh, figé au garde-à-vous, son inséparable casque colonial à la main, songe-t-il que 23 ans plus tôt, il quittait en proscrit cette terre de France qu'il accueille aujourd'hui comme un chef d'État. Jean Saint-Denis.
Monsieur le Président, au moment où vous prenez contact avec le sol de France, voulez-vous dire quelques mots, s'il vous plaît, au micro de la radiodiffusion française?
Mesdames, messieurs, mes chers amis, je suis heureux d'arriver et de voir la France nouvelle. Laissez-moi vous dire que Français et Vietnamiens, nous avons le même idéal, liberté, égalité et fraternité. Nous poursuivons le même but, la démocratie et la paix. C'est pourquoi je suis sûr que Français et Vietnamiens, nous y arriverons sûrement et rapidement à l'entente et à la collaboration égale, loyale et fraternelle.
Ho Chi Minh arrive au Bourget, accompagné par Saint-Denis.
Pierre Messner.
Et Ho Chi Minh arrive militant communiste, avec l'idée qu'il va manœuvrer en s'appuyant certes sur les communistes qu'il connaît bien, les communistes français, bien entendu, qu'il connaît bien, car il a été lui-même en France. C'est même en France qu'il s'est formé comme communiste. Et en même temps, avec l'habileté orientale qui est celle de Ho Chi Minh, il se dit qu'il pourra manœuvrer dans un milieu français très diversifié.
Et puis à Paris, nous étions restés presque 2 mois.
Femme Vendôme.
Pour ne rien faire. Bien, j'arrive à la conférence de Fontainebleau. Oui, l'ouverture, c'était le 6 juillet 1946. À l'ouverture de la conférence, le chef de la délégation française, qui était Mars Entrée, en banquier, savez-vous ce qu'il me disait avant l'ouverture, en tête à tête, lui, chef de la délégation française, et moi, chef de la délégation du Vietnam? Il me disait ceci: si vous n'êtes pas sage, nous vous aurons dans 8 jours avec une simple opération de police. Parce qu'il ne pouvait pas concevoir que nous, peuple du Vietnam, d'alors, qui pouvait avoir une résistance quelconque contre les troupes d'occupation. Voilà comment on commençait la science et l'innovation dans la conférence de Fontainebleau. Comment pouvoir négocier avec les tels hommes?
Nous voulons des collaborateurs, des amis, des conseillers même, mais non des maîtres qui nous exploitent et nous oppriment comme avant. Je suis sûr que nous y arriverons. Le seul obstacle qui nous empêche de parvenir à une rapide entente est la question de la Cochinchine.
Les négociations ne pouvaient rien donner. Pour la simple raison que le président de la délégation française ne voulait pas négocier sérieusement. Nous voulions partir après les premières séances, parce que nous savions que de cela, rien ne pouvait sortir. Mais il faut vous dire que notre président était l'homme de la paix. Il voulait la paix à tout prix. Il faisait l'impossible pour l'avoir. Il ne pouvait pas rentrer sans rien obtenir. Il voulait lutter pour la paix parce qu'une guerre même bien victorieuse, n'était pas une bonne chose pour n'importe quel peuple.
C'est pourtant vers la guerre qu'on se dirige. Quand Ho Chi Minh quitte la France le 14 septembre 1946, il repart les mains presque vides. Il n'a rien obtenu, sinon un modus vivendi, signé in extremis avec Marius Moutet. On reprendra les négociations plus tard. Mais personne n'est dupe. Le départ de la délégation vietnamienne de Fontainebleau, c'est la rupture, malgré les propos de Georges Bidault. À la Chambre des députés, le chef du gouvernement français se réjouit de la signature du modus vivendi, mais ne dissimule ni sa volonté de rétablir la souveraineté française en Indochine, ni son mépris des accords signés le 6 mars précédent par un autre gouvernement que le sien.
Nous avons maintenu la présence française en Indochine. Et je veux le dire parce que c'est la vérité. 12 sommes-nous partis d'un texte qui, en ne définissant pas suffisamment les organes fédérateurs, permettait à l'idée séparatrice de trouver sa place. D'un texte, en résumé, qui, voulant sanctionner l'union de la France métropolitaine et de la France d'outre-mer, risquait paradoxalement d'aboutir à préparer leur désaccord et à aboutir à ouvrir les voies de leur séparation. Où sommes-nous arrivés ? À un texte à la fois audacieux et sage, qui marque, d'une part, notre ferme désir de voir évoluer les territoires d'outre-mer vers une administration directe, et d'autre part, notre constant souci de maintenir le drapeau français sur les sols lointains.
Il est certain que la responsabilité fondamentale, c'est le durcissement de la position française à la suite de l'échec de la conférence de Fontainebleau. Mais il faut dire aussi que, de leur côté, les militaires, qui sont alors commandés par le général Valuy, les militaires sont excédés des incidents qui se reproduisent incessamment un peu partout, et dans le sud et dans le nord du Vietnam. Et il est bien vrai que les militaires ont pris dans cette affaire une position très dure, eux aussi. Et comme ils ont les armes, une position militaire dure se traduit évidemment par l'ouverture du feu.
Priorité absolue. Numéro 1864F, 21 novembre, 12h40 Z, 19h40 heure locale. Honneur, vous rendre compte, grave incident survenu à Haiphong le 20 novembre. Détachement vietnamien ouvre le feu sur LCI français à raisonneur, remorquant jonque chinoise de contrebande. Incident se propage quartier chinois et marché, où militaire français assailli. Fusillade générale, tir mortier sur cantonnement français, quartier gare. Barricade, riposte française enlève théâtre et poste vietnamien dans quartier français. Sitôt informé, général Morlière adresse lettre de protestation jour même, 16h, à président Ho Chi Minh.
Après l'échec de la conférence de Fontainebleau et le retour de Ho Chi Minh au Vietnam, les incidents se multiplient en Indochine entre les autorités françaises et vietnamiennes. Le plus grave se produit dans le plus grand port du pays, le 20 novembre 1946. Ce jour-là, à Haiphong, une jonque de contrebande est arraisonnée par des marins français. Des soldats vietnamiens tirent sur eux. La ville entière se soulève et le 22, le général Valuy, nouveau commandant en chef en Indochine, donne l'ordre qui va déclencher une des guerres les plus longues et les plus meurtrières du XXe siècle. Le lendemain, l'amiral Battet, commandant des forces maritimes en Extrême-Orient, tire sur Haiphong les premières salves d'artillerie de la guerre d'Indochine.
22 novembre, 17h Z, minuit heure locale. Il m'apparaît nettement que nous sommes en face agression préméditée, soigneusement préparée par l'armée régulière vietnamienne, qui semble ne plus obéir aux ordres de son gouvernement. Le moment est venu de donner une dure leçon à ceux qui nous ont traîtreusement attaqués. Par tous les moyens à votre disposition, vous devez vous rendre maître complètement d'Haiphong et amener le gouvernement et l'armée vietnamienne à récipiscence. Vous mettrez le président Ho en face de ses accablantes responsabilités et des lourdes conséquences que peut avoir son attitude à l'égard du gouvernement français. Général Valuy.
On tirait sans arrêt quoi, pour soutenir les troupes à terre.
Henri Martin.
Ça faisait évidemment plus qu'un bruit assourdissant, mais surtout ça faisait du dégât où ça arrivait. Hein, parce que on avait l'armement, les canons anglais 102, c'est les 105 de chez nous. Hein. Ça fait du dégât. Et on a eu l'occasion de le voir. Au bout de 8 jours, on est descendu à terre. On s'est promené dans Haïphong. Il y a 3 Haïphong, si on peut dire. À l'époque, c'était comme ça, en tout cas. Il y avait donc la ville européenne, la ville chinoise et la ville, on disait, annamite à l'époque. Alors celle-là était rasée. Il ne restait plus rien que là. Là, tout était absolument rasé. Alors on a vu le travail que nos canons avaient fait. Et il y avait du monde en dessous des ruines. Parce que quand on a commencé le bombardement, la population n'avait pas évacué. Quoi. On a commencé à taper dans le tas comme ça. On parle de 5, 6, 6 000 morts, c'est difficile à dénombrer, mais en tout cas, il y en a eu des milliers.
Affreux. Affreux, indigne de la France.
Jacques-Raphaël Legge, aide de camp de l'amiral Battet.
Vous comprenez, comme l'a dit l'amiral Battet, moi j'étais resté à bord. Comme l'a dit l'amiral Battet, quand j'ai vu des enfants grattés pour avoir un peu d'herbe, des gens qui n'avaient même plus d'eau, quand j'ai vu des enfants blessés, des femmes tuées, je me suis dit, c'est pour la France. Je sais bien que les Viet Minh, dans cette histoire, avaient eu un rôle très malhonnête au point de vue douane. Mais tuer 6 000 femmes et enfants quand on est la France, et amener à une guerre, ce n'est pas la France. Et c'est ça que l'a dit l'amiral Battet dans son rapport.
Malgré le bombardement de Haïphong, quelques hommes s'efforcent encore d'éviter le pire. Mais c'est trop tard. De part et d'autre, la parole est aux partisans de la guerre. Poussé par les éléments les plus durs de son gouvernement, à Hanoï, Ho Chi Minh lance le 19 décembre 1946 un ordre de soulèvement général contre les Français.
Par amour de la paix, nous avons fait des concessions. Mais les colonialistes en profitent pour empiéter sur nos droits. Leur intention évidente est de reconquérir à tout prix notre pays. Non, plutôt tout sacrifier que perdre notre pays, que retomber dans l'esclavage. Compatriotes, debout, que tous les Vietnamiens, hommes et femmes, jeunes et vieux, sans distinction de religion, de parti, de nationalité, se dressent pour combattre les colonialistes français, pour sauver la patrie. Que celui qui a un fusil se serve de son fusil. Que celui qui a une épée se serve de son épée. Et si l'on n'a pas d'épée, qu'on prenne des pioches et des bâtons. Nous devons sacrifier jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour défendre notre pays. Nous vaincrons. Vive le Vietnam indépendant et unifié. Vive la résistance victorieuse. Ho Chi Minh.
Si il y a des responsabilités, sont celles du Viet Minh, c'est évident.
Pierre Messmer.
C'est le Viet Minh qui a lui-même déclenché l'affaire à Hanoï, et par surprise, naturellement, et avec la volonté délibérée de s'emparer, si possible, de la ville de Hanoï, mais je doute qu'ils aient eu un espoir sérieux d'y parvenir, en tout cas, de créer l'irréparable. Je pense que c'est délibérément que Ho Chi Minh a lancé cette affaire dont il savait que, dès lors, c'était la guerre.
Les rues étaient déjà hérissées de barricades.
Nguyen Dinh Thi.
Et on attendait à tout moment, on ne savait pas ce qui allait arriver. Et je suis arrivé à Ha Dong, une petite ville à 8 km d'Hanoï, vers 8 heures du soir, à peu près à ce moment-là. Et là, m'attendait le secrétaire général du Parti communiste à ce moment-là, Kamrat Chung Ching. Il m'a dit que, tu as entendu, les fusillades commencent déjà à Noé. Voici un appel de Ho Chi Minh. et dactylographié. Tu vas apporter cet appel au comité de résistance de Hanoï. Tu vas rentrer en ville, apporter cet appel au comité de résistance. Alors je reçois ce petit papier dactylographié où était le célèbre appel de Ho Chi Minh que vous connaissez tous. Et je rentrais à Hanoï à pied. Et devant moi, alors à 7 à 8 kilomètres, à chaque moment, l'incendie grandissait. À chaque moment, je voyais Hanoï s'enflammer. Les flammes se répandaient. Et des centaines de milliers de Hanoïens quittaient la ville, à pied. Les femmes, les vieillards, les vieilles femmes, les enfants. Et c'était un fleuve humain qui occupait toute la largeur de la route et qui quittait Hanoï. Et moi, j'allais à contre-courant, tout seul, avec un petit papier dans ma poche. Et devant moi, c'était la ville qui brûlait.
Dès le début du soulèvement du 19 décembre, Ho Chi Minh et son gouvernement ont quitté Hanoï pour prendre le maquis. Ils y resteront 8 ans. La guerre d'Indochine vient de commencer. Jacques-Raphaël Legge.
Malheureusement, cette guerre m'a paru un bruit de bottes sur un tapis de soie. Ouais. Parce que, à mon avis, ça a été une suite d'occasions manquées.
Elle s'est déclenchée par inadvertance et elle a continué par inertie.
Jean Pouget.
Moi, je vois pas d'autre solution. De toute façon, il faut dire que les lieutenants, comme moi, qui arrivaient en Indochine en 1947, ont continué la guerre, finalement, d'Europe. On n'a pas une mentalité de vaincu, nous, on a une mentalité de vainqueur. Bon, ça va de ça pour nous, c'est une colonie française. Hein? Donc, on rétablit la souveraineté française sur des rebelles, des hors-la-loi. Ça, on se pose pas davantage de questions. Moi, je connaissais pas les Vietnamiens, j'avais jamais vu de ma vie. Moi, j'allais me balader sur les marchés, et puis, peu à peu, on a découvert ce peuple extrêmement attachant. On a découvert un ennemi aussi qui était courageux, qui se battait bien, alors qu'on nous avait dit que c'était les bougnoules, quoi. Enfin, ils savaient rien faire. Hein? Non seulement ils savaient rien faire, mais ils étaient extraordinairement habiles, intelligents, courageux. C'est peu à peu qu'on a dit, mais qu'est-ce qu'on fout, là? Après tout, ils sont parfaitement capables d'être indépendants. Mais ça, c'est pas fait comme ça, il a fallu 7 ans pour qu'on comprenne.
On a fait cette guerre d'Indochine parce qu'on considérait l'Indochine comme une terre française.
Lucien Bodard.
Si vous voulez, ce qui devait survenir en beaucoup plus fort à l'Algérie française. Il y avait une population, il y avait des gens, il y avait des fonctionnaires, il y avait aussi des Français de souche, il y avait des Métis, il y avait tout un monde, il y avait des villes, il y avait une population qui faisait qu'on considérait l'Indochine comme française, et il y avait quand même de gros intérêts français en Indochine. Cet ensemble de choses, ça a été à la fois par sentiment et par intérêt, si vous voulez, qu'on a fait cette guerre d'Indochine. Et aussi parce que il était très difficile de s'entendre avec Ho Chi Minh. Ho Chi Minh et les Viet Minh étaient certes des gens qui ont essayé de se donner un abord aimable, comment dirais-je, serein, prêt à l'entente, mais au fond, c'était des intransigeants absolus.
Ce sera une guerre entre un tigre et un éléphant. Si jamais le tigre s'arrête, l'éléphant le percera de ses défenses. Seulement, le tigre ne s'arrête pas. Il se tapit dans la jungle pendant le jour et ne sort que la nuit. Il s'élancera sur l'éléphant et lui arrachera le dos par lambeaux, puis disparaîtra de nouveau dans l'ombre. Et l'éléphant mourra d'épuisement et d'hémorragie.
C'était, décembre 1946, le début de la guerre d'Indochine. Témoignages recueillis en France et au Vietnam. Philippe Franchini, Sa Majesté Bao Dai, le général Giap, Philippe Grandjean, Pham Van Dong, François Romerio, Philippe de Villers, Roland Sadoun, Hu Nhiop, Pierre Mesmer, Henri Martin, Jacques-Raphaël Legge, Nguyen Dinh Thi, Jean Pouget et Lucien Bodard. Texte dit par Philippe Lodenbach et Zong Van Quang. Archivina et documentation, Sophie Gazio, Annie Saulnier et Stéphanie Katz. Prise de son, Patrick Marguerite. Mixage, Olivier Berotte, François Rivalan. C'était l'Histoire en direct, une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Christine Bernard-Sugy.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 juin 1993. À suivre.